Et le pasouk dit que Tatakom Rivka vena rotera Vatirkavna al hagmalim Vatelechna achare haish Vaikach haeved et Rivka Vailech Vailach, pardon. Donc Rivka s'est levée, elle et ses servantes, les jeunes filles qui l'accompagnaient. Vatirkavna al hagmalim, elles sont littéralement, ça veut dire, elles se sont installées sur les chameaux. A priori, donc elles se c'est presque comme si on pouvait dire qu'elles ont chevauché des chameaux, mais bon. Et elles sont allées achare haish à la suite de l'homme. Haish ici, c'est, on l'a déjà utilisé plusieurs fois dans le texte. Haish, c'est Eliezer. Elle marche derrière lui. Alors, le Eved a pris Rivka et il s'en est allé. A priori, ça veut dire que Eliezer, il a pris Rivka sur son propre chameau. Elle était montée sur le chameau avec tout le monde. Après lui, il l'a prise sur son propre chameau. Il voulait ou la protéger. Après, d'ailleurs, il y a des midrashim qui se demandait si Eliezer il n'avait pas un peu abusé de Rivka. Le Midrash s'arrête sur le fait, a priori, sur ce Vatirkavna à l'Agmalim, qu'elles se sont montées sur les chameaux. Alors, Rabbi Lévi dit que, enfin, il faut comprendre que c'était pas du tout l'habitude. À l'époque du Midrash, pour le Midrash, ça se faisait pas. Les femmes sont pas sur des chameaux. Alors, néanmoins, Rav Lévi dit donc, Sheken derech hagmalim, gedelim bamizrach. Il nous donne une information sur les mœurs. Il dit, derech hagmalim, c'est l'habitude des chameaux, ils grandissent à l'est. A priori, ça veut dire que, si on comprend bien, ça veut dire que à l'est, à l'Orient, donc en Orient, les femmes sont sur des chameaux. Le Midrash fait remarquer que ça sort de l'ordinaire. Normalement, elles ne sont pas sur des chameaux. Les femmes ne sont pas sur les chameaux, alors elles sont ou sur d'autres, peut-être elles sont sur des ânes, je ne sais pas. Où elles sont dans des chariots qui sont tirés par des bœufs ou par des ânes. A priori, elles sont pas sur les animaux. Elles ne chevauchent pas les animaux. Donc ça, c'est la remarque de Rabbi Lévi. Je sais pas quoi en faire de cette remarque. Est-ce que le Midrash veut seulement dire, c'est pas très normal, mais bon, c'est comme ça qu'on faisait en Orient. Mais même le texte du Midrash, c'est un peu compliqué. Ça veut dire, le texte dit que, voilà, les chameaux, ils grandissent en Orient. Bon. Peut-être que ce qu'on veut dire par là, c'est que comme les chameaux étaient quelque chose de très présent en Orient, alors les femmes utilisaient aussi les chameaux. A priori, c'est ça qui a dérangé le Midrash. Il y a une autre lecture. Les Rabbanan, ils se sont pas occupés de ce point-là, mais ils se sont demandé, et nous aussi d'ailleurs, franchement dit, à quoi elle sert cette phrase? Parce que ça veut bien nous faire que... Voilà, on a compris, elle s'en va. Est-ce qu'on doit nous dire qu'elle a pris le train de 8h50? On s'en fiche. Je veux dire, l'important, c'est qu'elle quitte. Elle quitte la maison de idolâtre, elle quitte sa maison, son papa, sa famille, voilà. Et elle va vers le pays. Elle fait un travail comme celui d'Abraham. Elle quitte. Bon, ça, on avait déjà compris. Qu'est-ce que nous apporte ce verset? A priori, on ne sait pas quoi en faire de ce verset. En tout cas, la première partie, on ne comprend pas. Alors, les Rabbanan disent, voilà, le chameau, il vient nous dire quelque chose. Là, il faut imaginer les femmes sur un chameau. Donc, le chameau est au-dessous d'elle. Le chameau, Magamalze, alors, comme vous savez, dans les animaux, quand la Torah elle parle d'animaux purs et animaux impurs, elle ne veut pas dire qu'ils sont purs ou impurs, elle veut dire qu'ils sont consommables, alpi halacha ou non. Bon, ils sont cachers ou pas cachers. Un animal, il n'est jamais impur. Un animal vivant, le vivant n'est jamais impur. Le seul être qui est vivant et qui est impur, c'est l'homme. Qui peut être impur, c'est l'homme. Les animaux sont jamais impurs quand ils sont vivants. Ils deviennent impurs quand ils meurent. Et donc, la terminologie pur-impur, ici, elle correspond pas à la notion de pureté, d'impureté au sens classique du terme. Bon, ceci étant, ici, quand il y a les animaux qui sont tehorim, c'est-à-dire qui sont consommables, ces animaux-là, ils doivent avoir deux simanim, vous savez bien, ils ont deux caractéristiques, sabot fendu et sa rumine. Et le chameau, il n'en a qu'une seule. Il n'a qu'une seule des deux conditions qui sont remplies. Donc, d'un côté, ça veut dire, on peut dire qu'il a d'un côté un siman de Tahara, et il a aussi un siman de Touma. Celui, le signe qu'il n'a pas s'appelle siman de Touma. Alors, le Midrash dit, de la même manière que le gamal en question, celui sur lequel Rivka est jugée, Yeshbo Siman Touma et Siman Tahara, car Mida Rivka Sadik Veracha. De la même manière, Rivka a eu comme enfant un Sadik et un Racha. Elle a eu un tzadik et un rachat, elle a eu Yaakov et Esav. Donc ici, on a l'air de dire que, si vous voulez, c'est comme cette image, ce serait comme un arbre généalogique, c'est-à-dire vous avez Rivka au sommet, et en dessous, il y a le Gamal. Le Gamal, ben voilà, il y a ses enfants. Ben, les deux enfants de Rivka, si on les regarde comme un tout, il y en a un qui correspond au siman de Touma, l'autre au siman de Tahara. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Si vous regardez le texte, il est à l'envers, là. On a dit que le gamal, yeshbo siman touma d'abord, le siman tara ensuite. Mais après, quand on parle de Yaakov et d'Esav, on cite d'abord le tzadik et après le rachat. Si on avait suivi l'ordre qui est donné dans la description du gamal, on aurait dû dire que Emida, Rivka, Racha avait tzadik. Le Racha correspond au Siman Touma et le tzadik au Siman Tahara. Je ne sais pas pourquoi. Comme évidemment, on va dire tzadik avant Racha, alors le Midrash aurait dû dire Magamalze, Yeshbo Siman Tahara avec Siman Touma. Et là, il aurait dû le mettre à l'envers. Rien ne l'obligeait à dire d'abord le Siman Touma avant le Siman Tahara. Même un peu surprenant qu'on cite la Touma avant la Tahara. Ça non plus, je ne sais pas ce qu'il faut en dire de cette histoire, cette comparaison, comme si, en fond, il y a déjà dans la démarche de Rivka, il y a déjà quelque chose, une allusion, si vous voulez, dans sa façon de... Si on avait transporté Rivka sur un éléphant ou sur un bœuf, on n'aurait pas eu du tout la même chose. Si on avait transporté sur un éléphant, on aurait eu deux simanim de Touma. Et si on l'avait transporté sur un bœuf, on aurait deux simanim de Tahara. Dans ces endroits-là, personne ne circulait à dos d'éléphant ou de bœuf, d'ailleurs. Le moyen de locomotion, c'était peut-être les ânes. Bon. L'âne ne va pas marcher non plus. Donc ici, on voit que le Midrash, il a trouvé en quelque sorte quelque chose à dire. Étant donné que le gamal, il a un des deux simanim de Tahara quand même. On n'a pas l'habitude de regarder le gamal comme un animal qui a un siman de Tahara. Le gamal, c'est assur, point bas. Sur le chazir, on a l'habitude de mettre en avant le fait qu'il montre qu'il a le siman extérieur d'un siman de Tahara, mais le siman intérieur, il ne l'a pas. Ou alors, il faut dire, il a un siman intérieur de Touma. On a presque l'impression que c'est important parce que c'est inhérent, d'après ce que le Midrash a dit dans la première phrase, c'est inhérent au fait qu'il fallait aller en Orient le chercher Rivka à l'Orient. Puisqu'il fallait la chercher à l'Orient, alors le mode de locomotion, c'est le chameau. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, on fait tout ça, hein, ça marche pas du tout. Eliezer, quand il est parti de chez Abraham, il est parti avec des chameaux. Donc, ils avaient bien l'habitude d'utiliser des chameaux. Et on parle des chameaux muselée d'Abraham, etc. Donc, ils sont. Qu'est-ce que cette histoire d'Orient, là? Alors quoi, Abraham, c'est aussi un Orient, quoi. Le Moyen-Orient. C'est quoi cette histoire d'Orient? On fait comme si. Où est-ce qu'on n'utilise pas le chameau? Dans le monde de la Torah, c'est un monde où il y a des chameaux. Yaakov Avinu, quand il envoie des cadeaux à Esav, il envoie des chameaux. Chameaux, des chamelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Yosef, il a été transporté par les chameaux, les caravanes de chameaux. Donc on comprend, du coup, on comprend plus du tout le Midrash. Qu'est-ce qu'il veut, ce Midrash? Est-ce qu'il en a après les chameaux, là? Rav Lévi, il met l'accent, il dit Agmalim, Gdelim, Bamizrach. Ils grandissent dans le Mizrach. Derech Agmalim, Gdelim, Bamizrach. Kitsour, je sais pas. J'ai dit des choses. Comme si le gamal était quelque chose de spécial, mais au fond, c'est pas vrai. Et le Midrash, il fait comme s'il avait un statut à part, le gamal. Alors, ça reste toujours qu'elle a été transportée en gamal, mais en quoi est-ce qu'ils auraient. Eliezer, le Khatrila, il est allé la chercher avec des chameaux. Bien, alors on passe parce que je ne sais pas quoi dire. Voilà, donc maintenant on est parti et on est arrivé. La suite du texte nous parle déjà de la rencontre entre Rivka et Yitzhak. Mais avant de nous parler de la rencontre elle-même, il y a un passouk. Passouk, alors du coup, on va en dire des choses, mais. C'est étonnant qu'ils soient placés juste à cet endroit-là. Le passouk qui vient maintenant, il nous parle de Yitzhak. Il nous dit que Yitzhak, bo mivo, pardon, bo mivo ver la chayroi, vous yoshev ver etzanegev. Alors Yitzhak, il est revenu d'avoir été à ver la chayroi. En fait, lui, il habitait dans le sud. Donc, il est dans le sud. Mais on nous dit qu'auparavant, il est allé à Beer l'Achayroï. Beer l'Achayroï, vous... ça fait-il dans votre tête, évidemment? Qu'est-ce que c'est Beer l'Achayroï? Be'er, c'est un puits. Et la Chayroï, évidemment, ça fait référence à Agar. Si vous vous rappelez bien, quand Sarah a chassé Agar, alors Agar s'est enfuie et on parle d'elle, elle est au puits, évidemment, c'est normal d'aller à un puits. Et elle nomme ce puits, elle lui donne un nom. Elle dit, c'est le puits à Be'er, la Chayroï. le vivant qui me voit. Elle parle d'Hachem ici. Et on nous dit que Yitzhak, il est déjà maintenant revenu, d'avoir été à Be'er Lahai-Roï. Il est allé à ce puits. Qu'est-ce qu'il est allé faire à ce puits là-bas? Alors le Midrash dit, c'est clair, hein, il est allé chercher Agar. Il est allé chercher Agar. Pourquoi il est allé chercher Agar? Parce que il s'est occupé de trouver une épouse pour son père. Abraham est veuf. Et il a encore tout un travail à faire. Parce que quand Hachem a changé le nom d'Abraham en Avraham, Abraham est devenu le père d'une multitude de peuples. Amon Goïm. Alors, on pourrait lire Amon Goïm, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est que cette multitude de peuples, cette pluralité de peuples? On pourrait dire, bien, ce sont les Bnei Israël. Quand Yaakov, sur son lit de mort, il est entouré par ses enfants, et il regarde et il dit, voilà, j'ai raté mon coup, quoi. J'étais censé fabriquer un peuple, et là, voilà, je vois, j'ai 12 peuples devant moi. Et comme vous savez, les enfants de Jacob le rassurent, ils lui disent, Shema Israël, n'aie pas peur, c'est vrai qu'on est, nous sommes des peuples différents les uns des autres. Mais nous avons en commun quelque chose. Ce que nous avons en commun, c'est pas d'être tes fils. Ça, on n'y peut rien, quoi, quelque part. Ça, c'est le donné. Bon, mais c'est pas très important, le donné. Bon, c'est ce qu'on nous donne pour faire avec. Ce qui va être important, c'est tout, comme toujours, c'est l'acquis. Qu'est-ce qu'on va faire de ce donné? Alors, ils annoncent. Nous, ce vers quoi nous allons converger, ce qui va faire de nous un peuple, c'est notre reconnaissance de ce que Hachem est Echad. Hachem est Elokeinu. Hachem est Echad. C'est ça que nous avons en commun. C'est ça qui fait de nous le peuple juif, en fait. Pour le reste, on est des peuples différents. On est des peuples complètement différents. On est des peuples différents. On a déjà passé la mer de façon différente. Vous vous souvenez, ils passent la mer, chaque tribu a son canal. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a vécu le passage de la mer de façon différente. Chacun avait un vécu différent. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui de sortir d'Égypte et de passer la mer? S'ils ont des canaux différents, ça veut dire qu'ils le vivent de façon différente. C'est comme si on disait, bon, imaginez, voilà, c'est des cultures différentes, on appréhende ce passage de façon complètement différente. Le soir du Seder, nous on fait, c'est une invention quoi, mais on demande à chacun qu'est-ce qu'il aurait voulu avoir dans son canal. Quelle musique, quel livre il aurait pris avec, qu'est-ce qu'il aurait pris à manger, pas tout, à quelle vitesse il voulait passer, etc. Bon. Chacun se vit la sortie d'Égypte de façon différente. Donc on pourrait dire que Abraham, quand il est devenu Hamon Goïm, c'est le père des tribus. Mais de facto, on voit que ce n'est pas ça. Parce que, on en a déjà parlé, quand Abraham Avinu et Yitzhak Avinu descendent du Moria après la Akedah, ils descendent et chacun va de son côté. Et à ce moment-là, Abraham, il part d'un côté, il part pour devenir le père de cette fameuse multitude de peuples. Et pour ça, il faut une femme. Alors, Yitzhak Avinu lui est allé chercher la femme dont il pensait qu'elle était la plus adéquate pour Abraham Avinu, pour produire justement ce qu'il a à produire en dehors du clan d'Israël. Par conséquent, Abraham Avinu, quand il descend de ce côté-là de la montagne, si vous voulez, il n'est plus le patriarche du clan d'Israël. Il n'est plus dans son rôle là. Le patriarche à ce moment-là, c'est Yitzhak. Il a 37 ans, mais c'est lui le patriarche maintenant. C'est lui le Av en fonction. Alors, c'est lui qui s'est chargé d'aller chercher une épouse pour son père. C'est intéressant de voir Yitzhak, qui était pourtant très très proche de sa mère. Et lui, il a pensé que pour Abraham, c'était Agar. Tout le monde n'est pas d'accord que c'était Agar. Elle s'appelle Keturah. Mais certains disent que c'est Rachid et que c'est Agar. Et là, de ce Midrash, le Midrash, il pense que c'est Agar. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu qu'il devait écouter la voix de Sarah qui disait qu'il fallait renvoyer Agar et Ishmaël, c'est marqué que Abraham il était assez réticent et que pour Abraham c'était difficile. Parce que c'est marqué à l'odot beno. Ça lui était difficile de renvoyer son fils. Le Chazal explique. Ce n'était pas seulement Beno. Ça lui était difficile de renvoyer Agar aussi. Parce qu'après, il a quand même visiblement, il n'a pas eu un rapport unique avec Agar. Pour ceux qui disent qu'Agar, elle a eu un enfant qu'elle a perdu, puis ensuite elle a un deuxième, donc ça ne s'est pas fait tout seul, non? Et donc, il y avait, pour Avraham, il avait compris que Agar, c'était quelqu'un de bien. Pourquoi Sarah elle a fait souffrir, etc. Peut-être qu'effectivement, elle a un peu perdu la tête ou attrapé la grosse tête quand elle s'est aperçu qu'elle était enceinte et que elle très rapidement elle était enceinte d'Abraham alors que Sarah ça faisait des années qu'elle ne l'était pas qu'elle n'a jamais été jusqu'au moment à ce moment-là elle n'avait pas d'enfant d'Abraham donc elle a pensé que du coup Sarah est peut-être pas aussi parfaite qu'elle le croyait puisqu'elle n'a pas d'enfant donc dans une optique où on considère que d'avoir un enfant ou de ne pas avoir, ça dépend de la qualité de la personne. Donc ici, avant de nous présenter la rencontre entre Rivka et Yitzhak, on nous dit quelque chose sur À quoi s'est occupé Yitzhak au moment où elle voyageait pour aller, alors je ne sais pas combien de temps ça a pris, parce que on ne sait pas si au retour il a eu, si il a eu Kfitsataderech, Eliezer. C'est seulement à l'aller qu'il a eu Kfitsataderech. On ne nous dit rien du voyage de retour, parce que ce n'est pas intéressant. Pendant que se jouait en quelque sorte le choix de Rivka comme épouse pour Yitzhak, lui, il s'est occupé d'aller chercher une épouse pour son père, pour Abraham. On va voir si on peut peut-être comprendre pourquoi ce verset nous est dit là. Finalement, est-ce que c'est tellement important de savoir que... En plus, le verset, il ne le dit pas clairement. On nous dit seulement qu'il est revenu du puits où il est allé. C'est tout ce que nous dit le verset. Le texte ne nous dit pas qu'il est allé chercher Agar, ni que c'était Agar. Agar pour Abraham, il allait à Beer Lahai-Roï. Il est allé là-bas en pèlerinage. Qu'est-ce qu'il va faire lui dans... Il y avait des tas de puits qu'Abraham a creusés, etc. Il n'est pas allé voir les puits d'Abraham, etc. Ça, on en parlera plus tard, mais là, il est allé à ce puits. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Évidemment, c'est la question que se pose le Midrash. Mais c'est une question que tout le monde se pose. On ne peut pas lire ce verset sans se demander que, en quoi est-ce que c'était important que je le sache, d'ailleurs. Visiblement, c'est important. Et pour l'instant, on constate qu'il y a c'est comme une espèce d'introduction à ce qui vient là. Et qu'est-ce qui vient? Il vient que retour dans le Yaakov et pardon Yitzhak est de retour dans le sud, c'est là qu'il habite. Vayetse Yitzhak la suach basade lifnot arev. Voilà, Yitzhak est sorti la suach basade. Eux dans le stone là ils ont traduit il est sorti prier dans le champ vers le soir. Les traducteurs en français du Midrash, quand ils traduisent ce verset, ils ont traduit un soir qu'Yitzhak était sorti pour se promener dans les champs. Le mot la suach, effectivement, il peut se lire comme promener. Mais les Chachamim n'ont pas lu comme ça. Ils ont pris le verbe la suar comme étant le verbe de sicha. La sicha, c'est une causerie, c'est une façon de parler. Et Chazal disent que c'est un des 10 noms de la tfila. Il y a beaucoup de noms pour désigner l'opération prière. Et un des noms, c'est Sicha. C'est ce que le Midrash dit. Le Midrash dit très clairement ici que Ein Sicha Ela Tfila. Sicha, ça veut dire tfila. Et Chazal l'ont vraiment pris en termes de tfila, puisqu'ils disent que c'est de ce verset-là qu'on apprend que Yitzhak Avinu a instauré la prière de Mincha, c'était vers le soir, donc c'est encore fin d'après-midi, donc il a instauré Mincha. De ce verset-là, donc, c'est sûr qu'il a pris les Chachamim qui sont d'Oresh, dans la Gemara, à partir de ce verset que Yitzhak a instauré Mincha, comme Abraham avait instauré Shacharit, et comme Yaakov a instauré Arvit, ou... Arrive, Arvit, donc. Donc voilà, et un soir, en fin d'après-midi, il est allé, c'est pas la nuit parce que sinon on voit rien, ça va vers le soir, et il est allé prier dans les champs. Tout un problème, est-ce qu'on peut prier dans un champ? C'est pas évident du tout. A priori, on prie sur un endroit qui est un peu plus fermé. Mais bon, probablement il a trouvé dans le champ un endroit où il pouvait prier. Et alors maintenant, alors le Midrash, il apporte deux versets de Tehilim dans lesquels on voit que le mot Sicha veut dire prière. Dans un verset, on utilise l'expression Yishpor Sicho. Il déverse sa Sicha. Il déverse, si je traduis prière, il déverse la prière. Yishpor, déverser, répandre sa prière. C'est la prière d'un malheureux, etc. Et dans l'autre verset, on dit que c'est quelqu'un qui prie et qui gémit. Il se lamente. La prière comme lamentation, comme gémissement. C'est deux situations de prière de quelqu'un qui n'est pas bien. Bien parce qu'il est pauvre, quel que soit le sens du mot pauvre, il déverse sa prière. Ou bien parce que, effectivement, il souffre. Alors, évidemment que si il y a cette connotation-là dans la prière, Abraham, est-ce que Yitzhak, à ce moment-là, il était dans une situation de pauvreté, quelqu'un qui est vraiment mal dans sa peau, quoi, et qui est pas bien et qui prie parce qu'en n'étant pas bien. C'est pas évident parce qu'on ne sait pas pourquoi il serait pas bien là maintenant. Alors, est-ce qu'il est toujours pas bien à cause de la mort de sa mère? Puisqu'on va nous dire qu'avec Rivka, il va un peu oublier sa mère. C'est machin que jusque-là, il n'avait pas vraiment oublié sa mère. Donc, il est encore attristé parce qu'il peut très bien penser qu'il y est un peu pour quelque chose dans la mort de Sarah. À mesure où peut-être il peut se dire, mais quand j'ai compris que mon père allait faire la Kéda, il allait le tuer, parce que je ne lui ai pas demandé, mais est-ce que tu en as parlé avec Sarah? C'est vrai que c'est Abraham qui a reçu l'ordre en question. Mais comment se fait-il qu'il n'en parle pas avec Sarah? Je veux dire, c'est pas rien du tout, cet enfant. Il n'est pas. Abraham, il ne l'a pas fait tout seul. C'est un peu étonnant qu'Abraham, bon, on peut dire il a voulu protéger Sarah, ou je sais pas, il a pensé qu'elle ne le laisserait pas faire, etc., et qu'il pensait qu'il était important, mais c'est au fond, quand on y réfléchit, quand on voit qu'il y a, il y a pas d'Abraham sans Sarah, on a affaire. Et là, il s'embarque dans. En fait, je n'ai jamais parlé de ça, mais à mon avis, c'est quand même une bonne question. Comment se fait-il qu'Abraham soit embarqué dans l'opération Akedah sans en avoir parlé à Sarah? Et Yitzhak peut se dire, j'aurais peut-être dû dire à mon père, lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a avec, qu'est-ce que Sarah elle en pense? Qu'est-ce que tu vas faire là? Ok, moi j'ai compris, moi je suis d'accord, mais est-ce que Sarah est aussi d'accord? Je sais pas, j'ai jamais vu de cette question, je l'ai jamais vue nulle part. Probablement qu'elle existe, hein, les questions élémentaires, elles existent toujours, mais je sais pas où. J'ai pas de réponse non plus. Enfin, il faut le savoir. Ça mérite une réponse, me semble-t-il. Donc peut-être qu'il a effectivement du mal à se remettre de la mort de sa mère, surtout s'il se sent un peu coupable. Parce que puisque le terme prière ici, la Torah avait le choix, il y a 10 noms pour la tefila. Bon, si on voulait nous dire qu'il est sorti prier, on aurait pu le dire directement, il est sorti prier dans les champs, vers le soir. Comme tfila, les tpalel, on ne manque pas de mots. Et alors, la Torah va nous dire quelque chose d'assez intéressant ici, sur lequel il faudrait réfléchir, mais peut-être vous aurez des choses à dire là-dessus. Si vous regardez le texte, ça continue dans le verset qui nous dit qu'il est sorti prier dans le champ vers le soir. Ce verset, il continue. Notre Midrash, il s'en est pas occupé. Mais le verset continue. Et il dit, Yitzhak, il leva les yeux et vit. Donc Yitzhak a levé les yeux, c'est-à-dire il a senti qu'il y avait quelque chose. On lève les yeux pour voir au loin, quoi. Il a levé les yeux et il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Et voici que des chameaux venaient. Bon, il a vu des chameaux. Ces chameaux, sur ces chameaux, il y avait des êtres humains, non? Qu'est-ce que vous auriez dit si vous voyez de loin, vous dites il y a des gens qui arrivent, ou vous dites il y a des chameaux qui arrivent? J'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Il a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des chameaux. D'accord. C'est ça la vision d'Yitzhak. Il voit les chameaux. Il n'a pas vu les hommes. Et la preuve qu'on peut voir les hommes, a priori, c'est que lui, il a levé les yeux. Le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Rivka leva les yeux et vit Yitzhak. Alors, elle ne savait pas que c'était Yitzhak. Elle a compris que c'était un grand bonhomme. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'il priait avec les mains vers le haut. Donc, si elle peut voir qu'il a les mains vers le haut, on voit bien. Et c'est sûr que Yitzhak, il a dû voir qu'il y avait des gens sur ses chameaux ou à côté des chameaux, peu importe. Je comprends pas ce que la Torah nous dit là, qu'il a vu des chameaux. Tiens, c'est incroyable. Mais ce qui est intéressant, tous les deux lèvent les yeux. Ils se voient de loin, mais ils lèvent les yeux pour voir. Ce n'est pas que chacun est entré dans le champ de vision de l'autre. Il a fallu lever les yeux. Et on nous dit à ce moment-là qu'elle se pencha du haut du chameau. Elle s'est penchée, elle n'est pas tombée, parce qu'on va voir d'après Midrash. Et elle a dit au Evet cette fois-ci, elle lui dit, mais qui est cet homme qui marche dans le champ à notre rencontre? Et à ce moment-là, Eliezer, le serviteur, lui dit quelque chose d'étonnant. Il lui dit, c'est mon maître. Son maître, ce n'était pas Yitzhak. Le maître d'Eliezer, c'est Abraham. Pourquoi il dit, c'est mon maître? Je ne sais pas si Yitzhak a hérité, si Eliezer a vécu plus longtemps qu'Abraham. Est-ce que Yitzhak, il a hérité de... Mais même s'il en a hérité, c'est après la mort d'Abraham, ce n'est pas maintenant. Maintenant, il est Eliezer, il est l'esclave d'Abraham, il n'est pas l'esclave d'Yitzhak. Comment se fait-il qu'il dise « c'est mon maître » Le Midrash dit, Ravuna dit que elle l'a vu. Et frère, quand elle l'a vu, on nous dit qu'elle a vu Yitzhak et elle ne savait pas qui il était à ce moment-là. Elle a vu un homme. En fait, ce qu'elle a vu, c'est Yitzhak. On va voir que ce n'est pas complètement évident, mais en tout cas. Et alors, le Midrash, Ravria dit, Yamar, Ra Oto Hadour. Elle a vu qu'il était splendide, adour. Chez nous, c'est marqué. Bon, attendez, d'abord, j'ai sauté un morceau. Ravuna a dit, Safa sheyado shtucha bitfila. Les mains étaient étendues, ça veut dire les mains étaient étendues vers le haut. Amra vadai adam gadolu. C'est certain que c'est un grand homme. Le kar sha'ala alav, c'est la raison pour laquelle elle a demandé qui il est à Eliezer. Vatipol me'al agamal. Titrachinat. C'est-à-dire la penchée. Ermadat Amar qui yipol loyutal. Le verset dit qu'elle penche, mais il ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Le verset dit qu'elle est tombée du chameau, mais en fait, elle n'est pas vraiment complètement tombée. D'après Onkelus, en tout cas. D'après le Midrash aussi. Donc, elle a vu qu'il avait les mains vers le haut. Alors, le Midrash a l'air de dire que du fait qu'elle a vu qu'il avait les mains, il priait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était en prière. Elle a dû comprendre qu'il priait ou quelque chose, avec les mains vers le haut. Elle en a déduit que c'est un grand homme. Où elle sait que prier les mains vers le haut. Nous, on ne prie pas avec les mains vers le haut, on n'a pas le droit de prier avec les mains vers le haut. Il y a tout un problème dans Birkat Kohanim. Où est-ce qu'on peut mettre, où est-ce que les Kohanim mettent les mains? Est-ce qu'ils ont le droit de les mettre? Est-ce qu'ils peuvent les mettre en haut? Ils ne doivent pas les mettre en haut, ils ne doivent pas les mettre plus haut que les épaules, etc. De qui est-ce qu'on nous dit qu'ils priaient les mains vers le haut? C'est Moshe Rabbeinu dans la guerre contre Amalek. Donc si voilà, celui dont on dit qu'il prit les mains vers le haut, c'est Moshe Rabbeinu. Donc nous on comprend, sachant que c'est Moshe Rabbeinu, on comprend que c'est un signe d'un grand homme. Il y a un Zohar qui dit que seuls les grands, les très grands, ont le droit de prier avec les mains vers le haut. Attends, il faut croire que c'était quelque chose de suffisamment impressionnant ou qui parle même à une femme comme Rivka. Même d'en supposer que, bon, on passe par-dessus le fait qu'elle est très jeune, etc. Mais elle voit quelque chose, elle comprend que c'est un grand homme. Les mains vers le haut, ça vous dit quelque chose? Pourquoi les mains vers le haut? Quand Moshe Rabbeinu a les mains vers le haut, on comprend parce que les guerriers qui sont sur le terrain, ils voient les mains de Moshe Rabbeinu qui pointent vers le ciel. Et à ce moment-là, Mshabdim et Libam la Biem Shebashamaim. Alors ça leur fait penser à Hachem et ils prennent sur eux un chiboud. Ils se voient comme serviteurs d'Hachem. À ce moment-là, ils gagnent. Et quand Moshe Rabbeinu a moins de force, il baisse les bras. Immédiatement, comme il voit plus que c'est pointé vers le haut, il perd la guerre. Israël. Donc c'est la raison pour laquelle Aaron et Hur ont dû venir pour soutenir les mains de Moshe pour qu'elles restent vers le haut. En passant, on peut se demander, mais pourquoi Moshe n'est pas capable de tenir les mains tout seul vers le haut? Alors, la réponse, c'est une sanction, c'est une punition. Ça fait partie des punitions que Moshe Rabbeinu a eues parce qu'il n'est pas, il n'a pas obtempéré tout de suite à l'ordre d'Hachem d'aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. On sait très bien qu'il n'y est pas allé, il voulait pas y aller parce qu'il voulait pas marcher sur les plates-bandes de Aaron, son frère. Mais Hachem n'a pas apprécié ça du tout, parce qu'il a résisté pendant toute une semaine. Et il a perdu, dans le processus, il a perdu la Kehuna. Mon cher Abeno, il était un peu affaibli. Et donc là, il n'y arrivait pas tout seul, quoi. OK, alors, ce qu'on voit, les mains vers le haut, ça pointe vers le haut. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui prie avec les mains vers le haut, c'est comme si il dirigeait, il voulait montrer, j'envoie ma prière vers le haut. C'est-à-dire que nous, on prie entièrement avec notre bouche, on ne fait pas de gestes. Certains se balancent un peu, mais on ne fait pas de gestes, pas de gestuels a priori. Donc si quelqu'un est grand et qui ne voit pas très bien ce que ça peut être d'autre, enfin là-bas chez Moshe Rabbeinu, c'est clairement ça, c'est pointer vers le ciel. C'est-à-dire en fait, c'est comme si mon corps était aussi tendu vers ma prière, quoi. Mon corps est en train de prier à sa manière aussi. Lui aussi, il prie. La prière, je l'adresse à Hachem. Notre représentation, c'est toujours vers le haut. Alors là aussi, mon corps participe à la prière. C'est ce que ça veut dire, probablement. C'est quelqu'un qui est à un niveau tel où même son corps participe à la prière. Pas seulement son sechel et sa parole, mais aussi son corps. En tout cas, elle l'a reconnu comme étant visiblement un grand bonhomme. Et du coup, elle demande. Et Eliezer lui dit, il répond. Alors, elle a posé la question en disant, Mi ha'ish alazé aoler basadeh. Likratenu. Ce mot de halazé, pas très clair. Le mot halazé, il existe. C'est un mot que ont utilisé les frères de Yosef Quand Yosef est venu, envoyé par son père, soi-disant pour prendre des nouvelles de ses frères, quand ils l'ont vu arriver, ils ont parlé de lui, Allah Zé. Zé d'abord, c'est toujours ce qu'on montre du doigt. Allah Zé. Alors, ils ont dit, Hine ba la chalomot Allah Zé ba. C'est une façon de mettre en avant le fait que ce bonhomme, eux, ils ont dit, voilà celui qui, Baal HaLomot, le maître des rêves. Non, comme si on disait, celui qui se permet de rêver, de rêver de prendre le pouvoir sur nous, de régner sur nous, etc. Donc ça veut dire, il voulait dire, c'est quelqu'un qui, eux, ils disaient de façon ironique, mais quand on le dit de façon non ironique, ça veut dire c'est un grand bonhomme. Il y a une autre lecture. Rabbanan Amré, ou fil suno, alazé, c'est alunzé. C'est autre. Il y a un midrash, le midrash dit ici que elle a vu l'ange gardien, en quelque sorte, d'Yitzhak Avinu. Comme si elle avait vu que il y a quelqu'un d'autre derrière ce bonhomme-là. Il est dédoublé, quoi. Il y a quelqu'un, il y a lui et qui c'est l'autre qui est à côté de celui-là? Donc c'est déjà quand elle voit Israël, elle voit qu'il a un ange gardien, elle voit que c'est un grand bonhomme. Donc ils ont tout de suite des rapports où Israël est quelqu'un de c'est pas Monsieur Tout le Monde, quoi. Il a presque un côté un peu effrayant, un peu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Vatikas. Elle a pris son fichu. Elle s'est recouverte. De ce fichu. Une espèce de recouvert, c'est voilé, quoi, quelque part. Et le Midrash dit, Shtaimhen, il y a deux femmes qui se sont justement couvertes, enveloppées dans un voile, quoi. Vialdut et elles ont mis au monde des jumeaux. C'est Rivka, donc Rivka ici, et c'est Tamar, la Tamar de Yehuda. Rivka, parce que marqué Vatikar, Vatsaïf, Vatitkas, et Tamar, c'est marqué Vatras, Vatsaïf. Alors ici, le Midrash s'embarque là. Bon, alors c'est clair, hein, pour tout le monde, Tamar, c'est la bru de Yehuda. Elle a épousé les deux premiers fils de Yehuda. Sont tous les deux morts. Et normalement, elle devait ou bien épouser par Yiboum, ou bien recevoir une Khalitsa qui lui aurait permis d'épouser quelqu'un qui n'appartient pas à la fratrie ou à la famille des deux défunts. Mais Yehuda, il a voulu préserver son plus jeune fils. Il a eu peur que lui aussi se conduise mal et qu'il meure. Et donc, il ne lui a pas donné. Donc, elle est restée à Gouna. Ça veut dire qu'elle est restée sans pouvoir se remarier, sans avoir de mari. Et donc, Tamar, c'était quelqu'un qui voulait à toute force entrer dans la famille. Elle voulait être dans la chalchelette, dans la chaîne des générations du clan Israël. Pourquoi elle a compris, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était chez elle une volonté très ferme. Et pour ce faire, elle a choisi le seul moyen qu'elle avait à disposition. Elle s'est fait passer pour une prostituée pour que Yehuda, qui passe à ce moment-là par là, Yehuda est déprimé, il a perdu sa femme, il s'est fait dégommer par ses frères qui lui reprochent. Les frères ont reproché à Yehuda, ils lui ont dit: on avait condamné Yosef à mort et toi, tu nous as convaincus qu'il fallait le laisser vivre et l'envoyer en exil. Et maintenant, on voit la souffrance de notre père. Tu nous as pas donné le bon conseil. Tu aurais dû nous dire, voilà, on lui a donné une leçon. Quoi, on l'a jeté dans le puits, on l'a ressorti, etc. Et maintenant, on va le ramener chez son père. Tu nous as pas donné le bon conseil. Et donc, ils l'ont viré. C'est plus toi le roi. Et donc, il est parti tondre ses moutons, là. Et en chemin, bon, parti de. En chemin, il y a cette prostituée qui est sa brue, mais il l'a pas reconnue. Alors, Elle n'a pas reconnu, il n'a pas reconnu parce qu'elle était voilée. Certains disent, il l'a pas reconnu parce qu'elle était voilée maintenant. Ou bien il l'a pas reconnu parce qu'elle était toujours voilée quand elle était dans la maison de Yehuda. Elle était extrêmement tenue, elle était voilée en permanence. Donc il l'avait jamais vue, donc il pouvait pas la reconnaître. En tout cas, il l'a pas reconnue, comme vous savez. Et quand il y a eu la proposition d'avoir un rapport avec elle, elle lui a demandé, mais OK, comment tu payes? Qu'est-ce que tu me proposes? Alors il a dit, écoute, j'ai rien sur moi, mais quand je serai arrivé à ma bergerie, je t'enverrai un agneau. Il a dit, très bien, mais qu'est-ce que tu me donnes en garantie en attendant? Il a dit, tu vois, j'ai rien. Elle a dit, ben, donne-moi. Et puis elle a montré. Il avait sur lui les signes extérieurs de sa royauté ou de peut-être simplement le fait qu'il était chef de tribu. Alors, bon, elle a pris ça en garantie. Il allait lui restituer quand elle aurait l'agneau. Quand il est arrivé à la bergerie, il a effectivement envoyé son serviteur amener un agneau pour récupérer pour payer les services de la prostituée en question et récupérer ce qu'il avait donné en gage. Mais quand il est arrivé là-bas, le serviteur, pardon, on lui a dit, mais il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit-là. Donc il est revenu complètement bredouille. Alors Yehuda lui a dit, écoute, moi je veux avoir donné ce que j'ai dit. Alors toi tu es zoché pour elle. Soulève l'agneau en son nom, donc moi j'ai donné, et puis bon, bah, pour le reste, on verra. Et au bout d'un moment, justement, au bout de 3 mois, on est venu dire à Yehuda, ta bru est enceinte. Oukar Oubra. Oubar était reconnaissable. Alors on l'a jugé parce que c'était un cas de quasi-adultère. Pas vraiment adultère, parce que c'est seulement un lave, normalement, un chet, 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 La Shomeret Yavam qui épouse à l'extérieur, elle a transgressé un lave, elle n'est pas Khayav Mita. Mais là, bon, c'était un truc spécial, eux ils l'ont jugée condamnée à mort. Alors elle a fait passer discrètement le message à Yehuda, elle lui a dit, voilà, je suis enceinte de celui qui m'a donné ça. À toi de jouer maintenant. Moi, je ne te dénoncerai pas publiquement. Si tu me tues, tu m'auras tué, tu auras tué aussi les deux jumeaux que je porte. Et Yehuda, il s'est dénoncé, il a dit, Tsadka mimeni. Elle a raison, elle est enceinte de moi et c'est ma faute. Toute cette histoire, c'est de ma faute parce que j'aurais dû lui donner mon fils Shelah et je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'est rare. Et donc là, le Midrash, il nous dit, il met ensemble Rivka et Tamar. On a vu la semaine dernière comment Rivka a quasiment construit le Klal Israël, bouleversé le Klal Israël, quelque part. Vous vous souvenez? Et Tamar, elle va mettre au monde l'ancêtre de David, Peretz. L'ancêtre de David, c'est-à-dire l'ancêtre du Mashiach. C'est pas simplement qu'elle entre dans le clan d'Israël. Elle entre par la porte qui mène au Mashiach. C'est pas rien. Donc, ce sont deux femmes qui construisent quelque chose qu'on n'attendait pas d'elles. Elles bouleversent complètement l'ordre des choses. C'est une initiative de leur part. Rivka, en disant, mais moi, je veux pas d'enfants à 55 ans, 12 enfants, etc. Donc, elle chamboule complètement toute l'histoire. Elle entre et je veux entrer dans le clan d'Israël et même si Yehuda, il fait pas ce qu'il faut, et même si ça marche pas, je tombe sur des gens pas bien, quoi, les deux premiers fils, et le troisième, on me le donne pas, etc. Et donc, elle prend sur elle, ce qui était certainement pas très agréable, de passer pour une prostituée, qu'elle n'est pas, évidemment. Donc, c'est les femmes qui bouleversent l'histoire, en fait. Et c'est lié, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun un geste. Elles se recouvrent, elles se voilent. Quand quelqu'un de voilé, il y a le voile, avec, sans voile, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a une double figure, en quelque sorte. Il y a la figure qu'elle a sans voile et la figure qu'elle a voilée. Et du coup, elles mettent au monde aussi des jumeaux. Elles mettent au monde des jumeaux et dans les jumeaux, il y en a un qui, disons, qui est meilleur que l'autre. C'est Yaakov par rapport à Esav. Mais Peretz, c'est pas que Zerah a démérité, mais Peretz, lui, il est vraiment celui qui va amener. Donc, il y en a un qui est, c'est par lui que la Mashiach passe, il passe pas par son frère. Donc, il y en a deux, il faut choisir. Hein. Il y a un choix. Qui n'est pas obligatoirement fait par elle. Pas obligatoirement. Mais bon, il y a un choix. Il y a ce double-là, et il n'y en a qu'un seul qui est le vrai, qui est le bon, etc. Mais il y a un double, en fait. Il y a l'autre côté, en fait. Toutes les deux ont donc des jumeaux, avec un qui joue un rôle plus important que l'autre. Elles se voilent toutes les deux à cause d'un homme. Il y en a une qui se voile parce que ce qu'elle a vu, c'est elle qui voit quelque chose qui est trop difficile à supporter, probablement. Well, oui. Bien, elle ne veut pas être vue telle quelle. Je ne sais pas si le voile est pour ne pas être vue, ou bien c'est parce que c'est plutôt un écran. Chez Tamar, c'est sûr que c'est pour ne pas être vue, a priori. Donc, si je dis la même chose chez Rivka, oui, c'est pour ne pas être vue. Elle pense qu'il y aurait trop de lumière qui viendrait de lui, ou qu'il éclairerait trop, lumière trop puissante, quoi. Elle ne veut pas s'exposer à ça. Tamar non plus, elle ne veut pas s'exposer au regard de Yehuda, parce que les choses ne seraient pas possibles si. Encore que je ne sais pas vraiment, parce qu'on a l'habitude de dire que ce qui s'est passé, c'est que pour nous, le Yiboum, c'est seulement avec un frère. Mais là, en l'occurrence, on voit très bien que c'est pas vraiment, on est avant Matan Torah, donc c'est pas le Yiboum au sens classique, que c'est n'importe qui, semble-t-il, de la famille. Ça peut être aussi le beau-père. Donc là, pour faire quelque chose qui ne devrait pas être fait directement, et je ne sais pas pourquoi ça ne pouvait pas être fait directement. Tamar aurait très bien pu dire à Yehuda, écoute, si c'est pas, tu veux pas, mais il aurait peut-être refusé, je ne sais pas. On n'a pas besoin de grande conscience, il suffit que les choses se. Le travail du Yavam, c'est de prendre la suite du frère défunt. Pratiquement, bah, il se remet dans le ménage de son frère. Il n'a pas besoin de Kavana, rien du tout. Simplement, voilà, c'est lui. Il se substitue à son frère, il continue la vie comme s'il était son frère. C'est aussi ambigu parce que le texte qui nous dit quelle a été la suite de cette histoire avec Tamar, il y a deux versions possibles, deux lectures en fait. Ou bien Yehuda il a épousé donc et il a vécu avec elle. Et d'autres disent que non, non, pas du tout, il n'a plus jamais vécu avec elle. C'est une ambiguïté dans le langage qui nous oblige à dire les deux choses. On voit très bien, c'est pas très clair ici. Là, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé par la suite. Bon, chez Rivka, ils vont vivre ensemble, mais c'est vrai que c'est le premier couple de juifs, disons, dans la Torah. Donc, ils sont premier mariage juif, si on peut parler comme ça. Mais bon, c'est un couple un peu particulier, je veux dire, où ça circule pas, la communication, elle n'est pas terrible. Parce qu'ils sont dans deux mondes. Lui, il est dans son monde post-Akeda, et elle est dans son monde de prophétesse. Qui sait des choses qui n'ont pas été communiquées à son mari. Donc, on s'est mal parti pour favoriser la communication. Mais bon, elle joue un rôle absolument fondamental. Donc ça, c'est la rencontre. Voilà, c'est qu'on nous a dit ici ils se sont vus de loin, voilà. Et après, on va nous parler finalement, avant de passer à autre chose, on va parler de la prochaine fois du fait que Yitzhak a fait entrer Rivka dans la maison de Sarah. Et la maison de Sarah a continué, enfin, s'est remise à fonctionner exactement comme elle fonctionnait avec toutes les nissim, etc., du temps de Sarah, mais la maison, elle fonctionnait comme au temps de Sarah qui avait 127 ans. Et maintenant, la petite jeunette là qui arrive ici, qui a, disons, au mieux 20 ans, bon, elle est au niveau de 127 ans de Sarah. On ne sait pas que elle n'est pas au niveau où était Sarah quand Sarah avait 20 ans. Elle reprend le chemin. Elle est à 20 ans comme Sarah était à 127. Bon, on voit très bien que bon, c'est une bonne dame incroyable, quoi. Je l'ai déjà dit, hein, mais je pense que c'est vraiment personne hors du commun, quoi. Tout à fait hors du commun. C'est probablement la plus grande, hein, je sais pas. On voit pas très bien comment une femme pourrait être encore plus grande qu'elle. Avec tout ce qu'elle a fait et tout. Voilà, on va s'arrêter là.